Voici une question intéressante. Est-ce que la Bible m'enseigne comment regarder au cœur et non aux apparences quand vient le temps de choisir un conjoint? Dieu va répondre à cette question ainsi qu'à d'autres questions aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. On va toucher à quelques sujets différents dans un seul chapitre de la Bible aujourd'hui. Dieu va répondre à plusieurs de nos questions en peu de temps. Par exemple, on dit que les apparences sont trompeuses. Est-ce que la Bible parle de ce sujet? Est-ce que Dieu voit tout ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je devrais rechercher dans le choix d'un conjoint? Et maintenant, un autre sujet complètement différent. Dans quelle famille de la Bible est-ce que la noblesse a trouvé racine? Par exemple, les rois, les ducs. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des rois? On va voir ce qu'il va nous dire par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais avant, demandons à Dieu de nous aider à bien saisir le sens de cet enseignement. Prions. Oh mon Dieu, on a besoin que tu diriges notre intelligence aujourd'hui. On a besoin que tu nous fasses saisir ces multiples enseignements que tu vas nous donner en peu de temps. Aide-nous à rien oublier et à l'appliquer dans notre vie. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous arrivons au 36e chapitre du livre de la Genèse. Quelle belle aventure que nous vivons ensemble! Il est question cette fois d'Ésaü, et l'Esprit de Dieu prend cette direction dans tout le chapitre. Et même, c'est ce qu'on peut voir dans toute l'Écriture, la semence qu'on y voit mène à Christ. Ceci est très clair, selon un des auteurs du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il n'y a pas plusieurs semences, mais une seule, et c'est le Christ. Donc, en parcourant les Écritures, à partir d'Adam et Ève, et passant par leur fils Seth, jusqu'à Abraham, à Isaac, et maintenant à Jacob, regardons le déroulement des événements. Dieu donne la lignée qu'il a rejetée en premier. Il la passe très rapidement, car elle ne fait pas partie de son but dans les Écritures, pour passer à l'autre lignée. Et voilà le but du 36e chapitre de la Genèse. Au cours de l'émission précédente, au chapitre 35 de la Genèse, nous avons parlé de la mort de Rachel. Je suis certain que beaucoup de gens qui m'ont entendu parler de cette section ont dit « Tu as échoué. Pour ce qui est de donner ton éloge funèbre pour Rachel, t'étais pas dedans. » Vous avez raison. Je n'ai pas dit grand-chose. J'en avais pas le temps. Mais je vais y revenir maintenant afin de faire un lien qui sera très important pour plus tard. Rachel était ce qu'il y avait de plus beau, de plus excellent dans la vie de Jacob. Rachel était sa Rachel. C'est peut-être le cas pour toi, toi qui es homme aujourd'hui, de dire « Oui, voilà la femme, celle qui est ma femme. » Jacob aimait Rachel. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il était prêt à faire presque n'importe quoi pour elle. Il lui était entièrement dévoué. Par exemple, il lui permettait de garder les idoles qu'elle avait prises de son père. Je ne pense pas qu'il aurait laissé Léa ou quelque autre personne à faire autant, mais il était indulgent envers elle, car il l'aimait. Rachel a eu un premier fils, Joseph. Ensuite, elle a eu un autre fils, Benjamin. Et c'est à la naissance de Benjamin qu'elle est morte. La vie de Benjamin est devenue la mort de Rachel. Ceci a brisé le cœur de Jacob. Premièrement, les autres 10 garçons ne lui procuraient pas de joie du tout. Je crois que Dieu lui rappelait chaque jour, 24 heures sur 24, que c'était péché d'avoir plus d'une femme. Il n'avait pas besoin de toutes ces femmes. Ce n'était pas la méthode de Dieu. Dieu annule son jugement, bien sûr. Il le fait dans notre vie. Il le fait dans la mienne. Remercions-le d'agir ainsi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu approuvait cela. Pas du tout. le fait que la Bible révèle qu'il n'approuvait réellement pas cela, spécialement quand on voit ce qui est arrivé à Joseph. Jacob aimait Joseph et Benjamin. Bien franchement, les autres garçons étaient jaloux d'eux. Jacob n'aurait pas dû démontrer autant de favoritisme envers Joseph, puisqu'il en avait fait l'expérience dans son propre foyer. Il était celui que son père avait ni plus ni moins rejeté. Il connaissait tout le trouble que cela avait engendré. N'aurait donc pas dû faire cela, mais il l'a fait. Généralement, je ne défends pas Jacob, mais après tout, quand Rachel était sur le point de mourir et qu'elle a dit « Appelle ce garçon Benoni », c'est-à-dire « fils de ma douleur », je pense que Jacob aurait pu dire « Oui, il est le fils de la douleur de Rachel ». Mais quand il a regardé son petit, je crois qu'il devait ressembler à Rachel. Il avait probablement ses yeux. Il devait lui faire penser à Rachel. Et il a dit « Je ne peux pas l'appeler ainsi. Il n'est pas le fils de ma douleur. Il est le seul sur qui je peux m'appuyer maintenant. Il est le fils de ma main droite. Il est ma canne. Il est mon bâton. Je vais m'appuyer sur lui. » C'est ainsi qu'il l'a appelé. Sur celui sur lequel je peux m'appuyer. Vous verrez plus loin que ceci est très important parce que ça fait partie de l'énorme chagrin que cet homme a dû subir plus tard. Tout ceci autour du fait que Dieu n'approuvait pas le comportement de Jacob. Et Dieu n'approuve pas le mal qu'il y a dans notre vie, chers amis. Nous croyons nous en sortir avec ça, mais nous n'en sortons pas du tout. Et Jacob ne s'en est pas sorti. Voilà que sa belle Rachel est partie, enterrée à Bethléem. Et vous remarquerez que le chapitre 35, que nous avons vu la dernière fois, est un chapitre où on parle beaucoup de la mort. Premièrement, la mort de Déborah, nourrice de Rebecca, et ensuite la suggestion de la mort de Rebecca elle-même, et maintenant la mort de la belle Rachel. Ensuite, les fils de Jacob sont mentionnés ici. Ils ne lui procuraient aucune joie. Et voilà que ça se termine par la mort d'Isaac. C'était donc un chapitre dont les choses les plus soulignées sont les morts et les funérailles de ces différents personnages. Trois dans ce chapitre. Maintenant, lorsque nous arrivons au chapitre 36 de la Genèse, nous nous tournons vers Ésaü. Toute l'attention est sur Ésaü. C'est presque humoristique à certains endroits, incidemment. Permettez-moi de dire que ceci ne serait pas très intéressant pour plusieurs d'entre nous. Ce serait une étude merveilleuse pour quelqu'un qui voudrait poursuivre jusqu'au bout en ce qui concerne ces noms et ceux qui leur ont succédé. Toute une liste de noms de personnes. Vous pouvez trouver certains des noms qui sont mentionnés ici dans le grand désert arabe encore aujourd'hui. Nous avons donc entendu parler de Omar, le fabricant de tentes. Il y était. Nous avons tous entendu parler de Théman, de Kenaz et de Tsepho. Eh bien, lisez le verset 15 ici. Ils y sont tous mentionnés. C'est la famille d'Ésaü. Ils sont là dans ce désert. Ils se sont installés dans le pays d'Édom. Édom est au sud-est de la mer Morte. C'est dans un endroit montagneux et la capitale d'Édom, la ville de Petra, est encore là parmi nous aujourd'hui. Il y a des prophéties concernant cela qui sont accomplies. Dieu a dit que ce sera exactement tel que c'est. C'est une prophétie dont nous parlerons quand nous y arriverons. Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie ont tous mentionné cette section particulière et cette nation particulière. C'est des livres que nous étudierons dans le futur, appelés le livre ou les livres de prophétie. Maintenant, cette nation venait d'Ésaü, trois fois dans ce chapitre. Très clair pour nous qu'Ésaü est le père d'Édom et qu'ils sont synonymes. Par exemple, si vous regardez au verset 8, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Quelqu'un pourrait dire, « Eh bien, quelle est la différence ?» La différence est tout simplement ceci. Quand vous regardez ce garçon, Ésaü, tel que nous l'avons premièrement rencontré dans la famille d'Isaac, un jeune homme du type sportif, athlétique, gaillard, aimant être à l'extérieur, un garçon de belle apparence. En passant, je suis certain que notre jugement irréfléchi nous amènerait à dire « Voilà un jeune homme bien ». Et c'est ce qu'il paraît être extérieurement. Mais à l'intérieur, s'il y a déjà eu un homme charnel, c'est-à-dire vivant pour ses propres convoitises, ses désirs, satisfaction personnelle, l'égoïsme, c'est bien lui. Voici une histoire de l'auteur de nos textes, Dr. Vernon McGee. Il y a plusieurs années, une jeune fille chrétienne lui a partagé qu'elle avait rencontré un de ces beaux jeunes hommes. Ils étaient tous de très beaux d'apparence. Elle était née en Chine. Son père était dans l'industrie pétrolière, était très riche. Elle a donc rencontré un jeune homme, un commis de banque, tout comme l'était M. McGee lorsqu'il était jeune. Alors il savait donc ce que c'était. Il savait aussi que ce jeune homme était très pauvre, que plusieurs commis de banque cherchent à être bien mariés. Ils cherchent parmi des clients qui ont beaucoup d'argent en banque. Ce garçon avait donc rencontré 7 filles. Il était très beau et très viril. Il ressemblait énormément à Ésaü. Elle était chrétienne. Elle avait été conduite au Seigneur par des missionnaires en Chine quelques années auparavant. Elle voulait absolument le marier. M. McGee lui a déconseillé très fortement de le faire. Et après une discussion avec elle, elle a dit qu'elle croyait que cet homme viendrait un jour au Seigneur. Et M. McGee lui a déconseillé très fortement, précisant que tout ce que cet homme voulait, c'était de la marier parce qu'elle était belle et surtout qu'elle avait beaucoup d'argent. Il était donc un homme charnel. Et elle l'a marié. Je peux vous assurer que M. McGee n'a pas présidé ce mariage. Et cette dame était même fâchée contre M. McGee à ce moment-là. Plus tard, elle est revenue vers M. McGee pour lui dire qu'il s'était divorcé. Elle a même précisé qu'elle n'avait jamais rencontré une personne de toute sa vie qui soit aussi adonnée aux choses matérielles et charnelles. Elle a ajouté qu'il était des plus grossiers, qu'il faisait bonne impression en surface. Elle a dit qu'il ouvrait la portière de l'auto pour elle et que c'était bien beau lorsqu'ils se fréquentaient, mais qu'il était l'homme le plus grossier qu'elle n'ait jamais rencontré. Eh bien, puis-je vous dire que ce jeune homme, c'est Ésaü? Et si vous êtes une belle jeune fille qui rencontrait un Ésaü qui voudrait vous fréquenter, il y a des possibilités que vous accepteriez de sortir avec lui, parce qu'Ésaü était attirant, mais un homme charnel. Maintenant, quelqu'un aimerait peut-être en faire un sujet de discussion avec moi. Je suis ouvert. Mais pourquoi pas en discuter avec Dieu? Dites-lui qu'il a fait une erreur en mettant ce jeune homme à part. Mais Dieu dit, et se protège toujours, dans le petit livre d'Abdias, un livre de prophète, vous verrez qu'Ésaü est dévoilé. Maintenant, Ésaü, c'est Édom. C'est ce que dit Moïse ici. Ésaü, c'est Édom. Maintenant, reculons de plusieurs siècles. Au fait, vous devriez reculer de plus de 1000 ans. Et un petit Ésaü devient maintenant environ 100 000 Édomites. Chacun d'entre eux est un petit Ésaü. Un être charnel. Maintenant, regardez la nation. Et vous verrez ce qui vient du produit d'Ésaü. C'est comme si on mettait Ésaü sous un microscope. Donc, si vous voulez voir un vrai portrait d'Ésaü, allez lire le prophète Abdias. Et que voyez-vous? Une nation remplie d'orgueil. Et Dieu dit au verset 4, « Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et quel est l'orgueil dont nous sommes coupables? C'est la déclaration de l'indépendance d'un cœur qui dit « Je peux vivre sans Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. » Voilà ce que c'est que le produit d'Ésaü. vous devrez attendre que nous arrivions à ce chapitre. Ensuite, quand nous arriverons au dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 1, versets 2 et 3, nous entendrons et nous lirons la déclaration de Dieu qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Ça a pris plus de 1000 ans avant que Dieu dise cela, mais Dieu le savait au commencement. Mais vous, vous ne le saviez pas, et moi-même, je ne le savais pas. Et quand ils ont avancé dans l'histoire, vous pouvez être certain que Dieu est précis, et qu'il savait tout ce qui concernait Ésaü. Donc, trois fois dans ce chapitre 36, où nous lisons qu'Ésaü s'était d'homme, le chapitre 1, voici la postérité d'Ésaü qui était d'homme. Ensuite, le verset 9, voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom. Et à la fin même du chapitre, encore une fois, nous pouvons lire, verset 43, à la toute fin, c'est là Ésaü, père d'Édom. Et c'est ça la Genèse. C'est ça le chapitre 36. C'est la postérité d'Ésaü qui était d'homme. Verset 1, verset 9 et le dernier verset, 43e. On nous dit qu'Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien. Je ne ferai pas cet exercice de prononcer tous ces noms dans la généalogie d'Ésaü. Mais il nous est dit au verset 6 et 7 qu'Ésaü prit ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs nombreux troupeaux. Les versets 6 et 7, nous pouvons les lire ensemble. Genèse, chapitre 36. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Rajoutons à cette lecture le verset 8, sur lequel nous mettons une grande importance dans cette émission. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'était d'homme. Maintenant, souvenez-vous qu'Abraham et Lot avaient ce même problème. En autres mots, il n'y avait pas assez de pâturage puisque chacun d'eux avait trop de troupeaux, trop de bétail. Ésaü a donc quitté la terre promise et l'a fait par lui-même. Mais les circonstances, la situation économique, l'ont forcé à le faire. Et maintenant, nous avons débuté il y a un moment, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, Ésaü c'était d'homme. Et ceci nous est dit où il est allé, et j'ai déjà localisé cet endroit pour vous. Maintenant, nous suivons cette famille. Et si vous les suivez au verset 12, il est écrit, « Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. » Voilà le début des Amalécites. Toutes ces tribus qui sont dans le désert étaient venues à travers les siècles. Elles sont allées dans plusieurs directions après la chute de Carthage et après que l'Église a pris de l'importance dans ses temps anciens en Afrique du Nord. Incidemment, le centre le plus puissant de l'Église à un certain temps était en Afrique du Nord. Mais ces tribus se sont étendues à travers tout le pays. Elles appartenaient toutes à cette famille qui vient d'Agar et d'Abraham. Ensuite, elles viennent d'Ésaü. Ensuite, il y a eu l'endogamie, c'est-à-dire des mariages entre familles dans les différentes tribus. Et voilà où nous trouvons tous ces Hittites, comme par exemple les Amalécites. Nous avons toutes ces tribus arabes là-bas aujourd'hui. Elles appartiennent à la même famille qu'Abraham et Israël. Ce chapitre est très important. Après tout, l'Esprit de Dieu s'est donné beaucoup de peine pour vous parler de ceci. Et savez-vous, je ne suis pas encore arrivé à cette partie qui est humoristique. Il vaudrait mieux que nous arrivions. » Dans nos Bibles, au verset 15, il nous est mentionné que ce sont des chefs. Et dans la Bible anglaise, version King James, les chefs sont appelés des ducs. Donc, dans la Genèse, chapitre 36, verset 15, il est écrit « Voici les ducs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le duc Théman, le duc Omar, le duc Sepho, le duc Kénaz, le duc Coré, le duc Guétam, le duc Amalek. Mais où sont-ils allés chercher ces ducs? Eh bien, voici le début, mes chers amis, de la noblesse. Ils ont simplement présumé que chacun d'entre eux est devenu un duc. Et croyez-moi, nous voici. Ce n'est pas simplement un surnom. Ils sont très sérieux concernant ce titre. Ceci est le commencement de la noblesse. Où a-t-elle commencé? Dans la famille d'Ésaü, un être tout à fait charnel. Nous y retournons. Lisons cette fois le verset 19. Ce sont là les fils d'Ésaü. Ce sont là leurs ducs de tribu. Dans nos Bibles, chefs de tribu. Donc maintenant, les gens ont des ducs dans leur famille. Et bon nombre de personnes dans notre pays peuvent retracer la royauté parmi leurs ancêtres. On se demande s'il reste quelqu'un qui viendrait de la lignée des gens qui étaient propriétaires de magasins, qui travaillaient dans des vignes, qui faisaient de la poterie ou qui étaient cordonniers, puisque tout le monde semble venir d'une royauté quelconque. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'Ésaü est devenu encore plus que ça. Remarquez, au verset 31, il est écrit « Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. » Des rois? Je ne crois pas du tout que ceci avait été organisé par Dieu, qu'il aurait établi un roi sur eux comme ceci. Mais pourtant, lève-là les rois. Ils ont des rois établis. N'est-ce pas intéressant? Ceci est avant que les enfants d'Israël aient des rois. Où donc sont-ils allés chercher l'idée? Ils ont eu cette idée de ces gens. Au fait, c'est ce qu'ils ont dit à Samuel plus tard. Ils ont dit, « Nous voulons des rois tout comme nos voisins autour de nous. » Ils auraient pu dire, « Nos frères, les Édomites, ont des rois. Nous aimerions aussi avoir des rois. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans cette section-ci, nous trouvons plusieurs choses qui sont en rapport avec certaines tribus, qui pourraient être suivies aujourd'hui par quelqu'un qui serait intéressé de poursuivre des études en anthropologie ou en ethnologie. Allez-vous-là. Et ceci donne beaucoup d'importance à un chapitre comme celui-ci qui recule et donne l'histoire familiale en allant probablement plus loin dans le passé que n'importe qui d'autre. Et ceci est la lignée qui a été rejetée par Dieu. Vous pouvez vous imaginer toutes les courbettes et les présentations qui avaient lieu lorsqu'ils se réunissaient. « Je vais vous présenter mon frère, il est le duc Alva. J'aimerais que vous rencontriez mon ami, il est le duc Timna. » Certains étaient des ducs et d'autres étaient des rois. Et ce chapitre se termine de la même façon qu'il a débuté. C'est là Ésaü, père d'Édom. Voilà ce que peut produire l'orgueil chez l'homme. Et nous venons d'en étudier un bref résumé. Alors, cher ami, prépare-toi pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 37.
Merci Régent pour ce bon enseignement. Et merci Seigneur de la manière dont tu inspires ton serviteur. Alors si j'ai bien compris aujourd'hui, Dieu connaît le cœur de tout être humain. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Alors je dois chercher sa direction afin de bien choisir un conjoint. Et si je m'intéresse à quelqu'un, j'ai besoin que Dieu me montre cette personne telle qu'elle est vraiment. Je ne dois pas me fier aux apparences parce qu'elles sont vraiment trompeuses. Alors, si je cherche pas le conseil de Dieu, je risque de faire une grave erreur. Et toi aussi, tu risques de faire une grave erreur. Surtout en sachant que le mariage, c'est pour la vie. Imagine-toi marié à un grand orgueilleux ou à une grande orgueilleuse. Une personne centrée là, sur elle-même. Combien ça pourrait être difficile hein, de vivre avec une personne comme ça. Sans compter que Dieu résiste aux orgueilleux, hein, sa parole nous le dit. Donc, les orgueilleux, ils sont pas bénis de Dieu. Puis si un couple forme un seul corps, comment est-ce que seulement la moitié du corps pourrait être béni? Comment être heureux, hein, dans un contexte comme ça? On a aussi vu aujourd'hui que la noblesse, la royauté, a débuté à travers la postérité d'Ésaü. Mais c'est pas sa postérité qui s'est rendue jusqu'au roi des rois. C'est pas sa postérité qui s'est rendue à Jésus-Christ, mon sauveur merveilleux. Alors, tout comme moi, tu fais peut-être pas partie d'une famille royale ici-bas sur cette terre. Mais tu pourrais, tout comme moi, appartenir à la famille royale, éternelle, à celle de Jésus. T'as juste à croire en lui. Pas seulement croire qu'il existe, mais mettre toute ta confiance en lui seul pour recevoir le cadeau qu'il veut te donner, la vie éternelle. Alors cherche-le, je t'encourage à chercher Jésus de tout ton cœur. Ouvre les oreilles de ton cœur aussi. Tu vas l'entendre frapper. Jésus veut entrer chez toi. Il veut souper avec toi. Il veut être intime avec toi. Pour l'éternité, là, pas juste pour quelques instants, puis après ça, c'est fini. Non, le Seigneur veut t'aimer éternellement. Alors, entends sa voix, puis laisse-le entrer dans ton cœur. C'est Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois qui veut faire sa demeure chez toi. Laisse-le entrer. Viens à Jésus. Reçois le beau cadeau de la vie éternelle. Et tu vas être heureux même sur la terre. En attendant cette éternité de bonheur, là, tu vas pouvoir être heureux, satisfait à chaque jour des belles choses qu'il va te donner, des belles choses qu'il va t'enseigner. Tu ne seras plus jamais seul non plus. Sa présence va être avec toi. Tu vas goûter à sa présence. Il va parler à ton cœur par sa parole et tu vas lui parler par la prière. Dieu nous a donné un moyen. Il nous a donné le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Jésus, ce sauveur merveilleux, celui qui est doux et humble de cœur, veut faire sa demeure chez toi. Endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Le ciel pour l'éternité, la présence de Dieu, le voir face à face. Tu n'auras pas besoin de la lune, du soleil, c'est Dieu qui va t'éclairer.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.